Capital sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous nos auditeurs sur cette radio qui rapproche les hommes. Et c'est une émission qui a été préparée par Christine Infota. Je la soutiens avec toute mon amitié.
Merci.
Et Simon va nous donner son aide précieuse à la technique. Voilà. Où est-ce que nous allons aujourd'hui ? Dans quelle capitale ?
Alors, nous allons plein sud, 10 heures d'avion, jusqu'à la pointe de l'Afrique, destination Le Cap.
Pretoria, au nord-est, est la capitale administrative du pays.
C'est cela, et Le Cap, c'est la capitale culturelle et économique. C'est aussi la ville-mère, on dit « mother city », c'est-à-dire celle par laquelle l'histoire de l'Afrique du Sud a commencé. La plus ancienne cité d'Afrique du Sud, la plus attrayante et aussi, je pense, une des plus belles villes du monde.
Au bout de l'Afrique, donc.
Pas exactement au bout, parce que le bout, c'est le Cap de Bonne-Espérance, mais au nord de la magnifique presqu'île du Cap, la région du Western Cape, une région montagneuse, et le Cap se niche dans une baie dominée par la montagne de la Table.
Ah, pourquoi ce nom ?
Parce qu'elle a vraiment la forme d'une table, cette montagne, elle est toute plate au sommet, et elle surplombe la baie du Cap à plus de 1000 mètres d'altitude, en arrière-fond. Une situation géographique unique au monde, un site naturel de rêve et une ville belle et cosmopolite, une ville d'Afrique créée par des Blancs et qui reflète bien aujourd'hui la nation arc-en-ciel, c'est-à-dire noir, blanc et colored, autrement dit les métisses.
Et que nous allons découvrir maintenant. Alors, combien d'habitants y a-t-il au Cap ?
Avec les banlieues, presque 4 millions. Donc c'est une ville séduisante, c'est comme un diamant avec de multiples facettes, diverses et lumineuses.
C'est vrai que nous sommes au pays des diamants,
et oui. Et au Cap, on trouve aussi la quintessence, l'essentiel de l'histoire du pays. La ville donne une impression d'harmonie. Bien sûr, elle a aussi son lot de problèmes et de chômage. Il y a quand même 2 millions de noirs et de colored, de métis donc.
Des gens colorés.
Voilà, des colorés, qui vivent dans des townships autour de Cape Town.
Oui, donc les townships, ce sont les banlieues, c'est ça hein ?
Des sortes de banlieues ghetto, on
peut dire. Quel est le meilleur moment pour visiter le Cap ?
Pendant l'été austral. Alors attention, les saisons sont inversées, donc c'est de septembre à avril. Et le climat alors est méditerranéen, c'est-à-dire de longues journées limpides et ensoleillées, avec quand même parfois un vent fort qu'on appelle le Cape Doctor, ce vent, parce qu'il nettoie la ville des poussières et des pollutions.
La région était déjà habitée avant l'arrivée des premiers Blancs ?
Oui, et même bien avant, puisque c'est en Afrique du Sud que l'on a retrouvé les restes les plus anciens de l'humanité. Le continent noir, c'est en fait le berceau de l'espèce humaine. Et dans la région du Cap, depuis des millénaires, vit le peuple Khoikhoi.
C'est leur langue aussi.
Oui, hein, ils parlent en claquant la langue. Comme ça, voilà.
Pas mal ça. Et les premiers Européens ne font que passer, là.
D'abord, le navigateur portugais, qui s'appelle Bartolomé Dias, il contourne la pointe du Cap à la recherche de la route des Indes en février 1488.
Donc, avant l'Amérique.
Oui, exactement, 4 ans avant. Alors, il nomme ce cap, non pas le cap de Bonne-Espérance tout de suite, mais le cap des tempêtes. Et le roi Jean II du Portugal trouve que ce nom ne sonne vraiment pas très bien, un cap des tempêtes. Donc, il va le renommer cap du Bonne-Espérance.
C'est plus joli.
Mieux.
Hein.
Oui. Voilà. 10 ans plus tard, c'est au tour de Vasco de Gama de boucler le cap fin 1497.
Magellan qui écrit que c'est le
oui.
plus grand...
Voilà, Magellan ensuite qui écrit que c'est le plus grand, le plus périlleux oui. cap qui soit au monde.
Ah périlleux, oui, c'est ça, hein. Il y a Bougainville aussi, voilà.
Bougainville, James Cook, ah, oui. vont tous passer par là.
Combien de marins, combien de capitains y passent ?
Oui, et ils sombrent aussi, hein, comme dans le poème de Victor Hugo. La nature, car la nature est magnifique, mais elle est vraiment terrible. Mais puis, il fallait aussi s'abriter, se ravitailler, et c'est ainsi que ce site exceptionnel du Cap est découvert. Les relations avec les peuples indigènes, les Khoikhoi, ne sont pas faciles. En 1510, sur la plage du Cap, les Khoikhoi massacrent le vice-roi des Indes et 65 soldats.
Quand même, hein. Quand commence la colonisation du Cap, finalement ?
Alors, elle commence vraiment en 1652, soit près de 2 siècles après le passage de Bartolomé Dias. L'histoire officielle commence. Donc, cette année-là, la compagnie hollandaise des Indes orientales, qu'on appelle la VOC, ouvre une station de rafraîchissement pour se ravitailler en eau douce et en produits frais sur la route des Indes. Donc, c'est une halte pour les navires, c'est tout. Jan van Riebeeck va dresser un premier fort et va planter un vaste potager. Des colons hollandais, qu'on appelle des boers,
qui arrivent là aussi, oui, c'est ça.
Voilà,
ce sont donc les fermiers.
Exactement, donc ils commencent à s'installer. Et comme la cohabitation avec les koi-koi est difficile, on fait appel à des esclaves des colonies d'Asie du Sud-Est comme main-d'œuvre. Et ces descendants s'appellent aujourd'hui ce qu'on appelle les Cape Malays, parce qu'ils venaient en particulier de Malaisie. Et au fil du temps, des employés de la VOC sont libérés, c'est-à-dire qu'ils peuvent cultiver leurs propres terres et ils deviennent des free burgers, des fermiers libres, en quelque sorte.
Ah, voilà, d'accord. Des Français aussi vont venir en Afrique du Sud à la fin du XVIIe siècle, les
oui,
protestants.
Oui, parce que oui, tu sais bien qu'en 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, qui avait été instauré par Henri IV. Donc, les protestants sont pourchassés dans tout le royaume. Les guerres de religion, voilà,
ah oui,
en sont la conséquence. Et certains d'entre eux, les Huguenots, se sont réfugiés en Hollande. Et décision est prise de les faire venir au Cap, où le climat est favorable à la vigne. On sait bien que les Français sont les grands spécialistes du vin. Donc environ 200 Huguenots français débarquent au Cap fin XVIIe siècle.
Ah voilà, d'accord. Donc c'est au XVIIIe siècle que le Cap va se développer.
Oui, alors beaucoup de nouvelles rues, des bâtiments élégants. Et les colons adoptent le style hollandais traditionnel. Et en fait, ils vont l'adapter au climat du pays. Et ça va faire un nouveau style architectural qu'on voit beaucoup au Cap et dans la région, qu'on appelle le style Cape Dutch, hollandais du Cap. Avec des pignons décoratifs sur des murs blanchis à la chaux, des frontons avec de délicates volutes en ferronnerie, des tourelles à larges balcons. Et l'expansionnisme continue, de nouvelles terres sont occupées, mais les tensions sont toujours fortes avec les peuples indigènes. En 1779, un conflit avec les Xhosa, une autre tribu sud-africaine, sera la première des 9 grandes guerres qui vont jalonner l'histoire de l'Afrique du Sud.
Dès lors, l'histoire de l'Afrique du Sud commence à se dissocier de celle du Cap.
Exactement. Et sais-tu que le Cap a connu un bref intermède français ? Pendant 3 ans, pas beaucoup, hein, avant la Révolution, de 1781 à 1784, le Cap était français. Suffren cherchait en fait à menacer les Anglais en Inde. Hein, et le Cap, en un rien de temps, devient un petit Paris avec bistrot, restaurant, etc.
Pour quelle raison ? Suffren voulait quoi ?
Il voulait essayer de couper la route aux Anglais, parce que les Anglais se voyaient partout maîtres du monde.
Mais les Anglais reprennent rapidement la main.
Mais oui, bien sûr, très rapidement. Et les Anglais deviennent les nouveaux maîtres des lieux. Et en 1814, l'occupation anglaise est donc ratifiée. Et en 1834, 20 ans plus tard, c'est l'abolition de l'esclavage, ce qui va provoquer la colère des Hollandais, qui sont devenus
les Afrikaners,
voilà,
c'est ça, hein,
des Afrikaners de souche hollandaise. Ils décident alors, ces Afrikaners, d'aller chercher fortune ailleurs. Ils quittent la région du Cap.
C'est le début du fameux Grand Trek.
Exactement, l'année suivante, le début du Grand Trek
en 1835.
Et c'est ce voyage des Boers qui fuient l'emprise anglaise. On les appelle des Trek Boers, c'est-à-dire des semi-nomades. Et on a tous l'image de ces colonnes de chariots tirées par 14 bœufs. Ils sont très religieux et ils se croient les nouveaux élus en route vers la terre promise.
Je crois qu'ils suivent beaucoup l'Ancien Testament.
Exactement, c'était leur livre de chevet.
Voilà, ouais, exactement, c'était pas facile. Les 4 régions de l'Afrique du Sud qui existent, là, ils vont par là, c'est ça. Il y a la colonie britannique du Cap, le Natal à l'Est.
Voilà, ça c'est sous influence britannique. Et il y a 2 nouvelles républiques qui sont des républiques boers, de l'Orange et du Transvaal. Donc à cette époque, le Cap en fait perd de son importance à la fin du XIXe siècle, pour 2 raisons principales aussi. La découverte de mines de diamants et de filons d'or du côté de Johannesburg. Et puis le percement du canal de Suez, qui fait qu'on n'a plus besoin de faire.
De faire tout le tour.
De passer par ce cap.
Plus besoin, voilà. Le cap des tempêtes, en fait.
Exactement.
Cap des bonnes espérances, voilà. Alors, les guerres anglo-bourgs ravagent le pays à partir de là, mais ne touchent pas directement la ville du Cap.
Non, elles ne touchent pas directement. En 1910, c'est la formation de l'Union sud-africaine au sein du Commonwealth. Et en 1948, l'instauration de l'apartheid au Cap comme ailleurs. Mais notons que malgré l'apartheid, les universités du Cap ont continué à recevoir des non-blancs.
Alors apparaît alors un des hommes politiques les plus admirés de la planète, Nelson Mandela.
Mandela, qui est né en 1918, il est mort en 2013, une très longue vie. Il a été prisonnier près du Cap sur l'île Robben pendant 18 ans. Le 11 février 1990, enfin libre, il prononce son premier discours depuis le balcon de l'hôtel de ville du Cap.
Voilà, ça a beaucoup marqué finalement cette période de l'apartheid qui s'est enfin terminée.
Oui.
Et donc la vie va changer.
Sans effusion de sang aussi.
Voilà, ça a changé dans ce pays-là. Voilà, alors écoutons une petite musique peut-être.
Oui, nous allons écouter une djewele qui va peut-être vous montrer l'envoûtement qu'on peut ressentir dans cette région.
Alors après avoir évoqué la fondation et les grandeurs du Cap, on va partir maintenant à la découverte de cette ville, donc Cape Town. En quelque sorte, elle est la vitrine de l'Afrique du Sud moderne.
Et je te propose de monter d'abord en haut de la Table Mountain, voir le panorama incroyable. Cette montagne de la Table est haute de 1086 mètres. Elle est classée parmi les 7 merveilles de la nature. Elle est en grès et a plus de 500 millions d'années. Alors, pour y monter, deux possibilités. Dis-moi ce que tu préfères. À pied, par plusieurs sentiers, c'est très physique. 3h30 pour monter, 2h pour descendre, surtout si on va trop vite. Ou alors un téléphérique ultra moderne.
Voilà ma solution.
Bon,
téléphérique ultra moderne.
Alors, dans ce cas-là, tu vas monter en nacelle qui pivote à 360 degrés pour bien voir. Et couvre-toi, parce que là-haut, attention, le vent peut souffler très fort. Mm-hmm. Le Cape Doctor. Voilà.
Alors, il y a d'autres sommets aussi qui surplombent le Cap, non ?
Oui, il y a le Lion's Head, la tête de lion, à 700 mètres, et Signal Hill, la colline de Signal, avec son panorama à l'infini sur l'océan, particulièrement magnifique au coucher du soleil.
Nous voilà donc maintenant redescendus dans la ville, dans un quartier calme et verdoyant au pied des montagnes.
C'est le quartier de Gardens avec le Company Garden. Et c'est ce qui reste du vaste jardin potager planté par Van Riebeck en 1652. Ce sont des jardins à l'anglaise avec des arbres fabuleux, des tulipiers, des frangipaniers. Un rêve pour les balades en famille.
Ah oui, c'est super tout ça.
Saluons au passage la statue de Cecil John Rhodes, premier ministre de la colonie du Cap, qui donna son nom à la Rhodésie,
voilà,
qui est devenue par la suite le Zimbabwe.
Alors nous sommes maintenant dans le City Bowl.
Le City Bowl, le bowl, voilà.
Comme un bowl.
On l'appelle comme ça, et c'est le centre-ville du Cap, et il est justement au creux des montagnes et des collines, comme un bowl, et qui s'étage dans un amphithéâtre naturel. Et nous longeons la jolie rue de Long Street qui relie la montagne à la mer. Une rue vivante et contrastée avec ses cafés, restaurants, églises, mosquées, boutiques, marchés, dont le Green Market, le marché vert avec son marché d'artisanat. Et dans la cathédrale anglicane, nous passons devant une construction néo-gothique de 1901. Nous pensons à l'archevêque Desmond Tutu.
Tutu,
pardon.
C'est Tutu.
Qui prêcha. Oui, je dirais pas Tutu quand même, c'est bizarre. Tutu. Qui prêcha courageusement contre l'apartheid. Et sur le bord de mer, voici le château de Bonne Espérance, le Castle of Good Hope.
C'est le plus ancien édifice encore debout du passé colonial.
C'est une forteresse militaire, oui, qui a été édifiée par la VOC, la compagnie hollandaise, en 1666. Toutes les décisions étaient prises ici et tout nouveau colon devait y passer. Cette forteresse a la forme d'un pentagone à la Vauban avec cinq grands bastions en avancée. Et nous voilà donc sur le front de mer avec le spectaculaire arrière-plan de la montagne de la Table. C'est un endroit très touristique.
C'est l'ancienne zone portuaire avec un vaste ensemble de docks et des entrepôts.
Et on l'appelle le Victoria et Albert Waterfront. Voilà. Avec beaucoup de centres commerciaux de luxe géants, des centaines de boutiques. Ça fait penser un peu à la 5e avenue à New York ou le faubourg Saint-Honoré à Paris. Et depuis 2017, le plus grand musée d'art contemporain du continent africain. La balade sur les docks est agréable avec la mignonne tour de l'horloge rouge vif et l'immense aquarium où évoluent, entre autres, des serpents de mer.
Comme le Loch Ness ?
Oui, en plus dangereux quand même. Et en plus vrai, peut-être aussi.
En vrai, à mon avis.
Les poissons-pierres aussi, avec leur dard mortel. Et puis d'extraordinaires méduses, des araignées géantes et bien sûr des requins. Et du port, on peut rejoindre en bateau la petite île de Robben Island, et qui nous rappelle un prisonnier célèbre.
Eh oui, Nelson Mandela, je suppose qu'on peut voir c'est
voilà.
Là,
Robben Island, donc Robben en afrikaans, c'est-à-dire la langue des afrikaners, du vieil hollandais, veut dire phoque, donc c'est l'île aux phoques, Robben Island. Mandela y reste à 18 ans, et le président actuel, Jacob Zuma, y a quand même passé 10 ans de sa vie. C'est une sorte d'Alcatraz sud-africain qui est devenu aujourd'hui un musée. Et c'est ici que dans sa cellule, Nelson Mandela écrivit sa biographie dans les années 70 qui s'intitule « Un long chemin vers la liberté ».
Alors les conditions de captivité devaient être terribles.
Vraiment épouvantables. Dans de minuscules cellules, les prisonniers dormaient par terre, pas de lit, et mangeaient avec les mains, pas de couvert. Leur travail était de casser des cailloux toute la journée sous le cagnard. Ils avaient droit à une visite d'une demi-heure tous les 6 mois, une lettre tous les 6 mois aussi. Et les guides de cette prison, aujourd'hui musée, sont d'anciens détenus et parlent de main tendue, de pardon et de réconciliation.
Et c'est une leçon d'humanité et d'humanisme dans un lieu totalement inhumain.
Oui. Le 11 février 1990... bien, l'apartheid est aboli, la démocratie instaurée, pas de bain de sang. Alors que certaines victimes de l'apartheid criaient vengeance, Nelson Mandela et Desmond Tutu, l'archevêque du Cap, optent pour le pardon. Respecté dans le monde entier, Nelson Mandela lutta sa vie durant contre la discrimination raciale.
Et il obtient le prix Nobel de la paix en 1993.
Oui, avec Frédéric Leclerc.
Il y a sûrement beaucoup de musées au Cap. Lesquels conseillerais-tu particulièrement, Christine ?
Beaucoup sont très intéressants, comme le musée africain et sa magnifique collection d'art rupestre, ou alors dans la Old Town House, l'ancien hôtel de ville du Cap, un beau musée d'art flamand et hollandais avec des dizaines de toiles exceptionnelles, ou encore la National Gallery, la Galerie Nationale. Mais je crois que je conseillerais surtout de visiter le musée de l'Apartheid ou le District 6 Museum. C'est un émouvant musée qui évoque une page sinistre de cette époque. Un quartier vivant, cosmopolite et tolérant, où vivait en bonne entente une communauté de 60 000 personnes, de toute religion et de toute race. Du jour au lendemain, on les déplaça manu militari pour être logés ailleurs. Leurs maisons furent rasées entre 1968 et 1983. Et ce musée témoigne du passage de la mixité riche à la sombre perversité de l'apartheid, à la fois passionnant et poignant.
Où ces personnes ont été déplacées ?
Dans ce qu'on appelle les Cape Flats, sur 30 km à l'est du Cap, avec plus de 2 millions d'habitants. Beaucoup de vent et de poussière. Et c'est ça qu'on appelle les townships, que l'on peut voir seulement en visite guidée, sécurité oblige. À ce propos, le carnaval du Cap, avec ses musiques et ses superbes costumes bigarrés et bruyants, a lieu le 2 janvier.
Et pourquoi le 2 janvier ?
Pourquoi pas le 1er ?
Ah bah oui, ton
parce qu'il rappelle la terrible condition des esclaves, justement, qui n'avaient pas le droit de festoyer le 1er janvier, ça c'était pour les Blancs, mais ils avaient juste le droit de faire la fête le jour suivant. Donc ce carnaval exubérant a une portée symbolique pour les populations noires et métisses. Et il rappelle le souvenir des temps difficiles et célèbre aussi la joie de la liberté retrouvée.
Alors, le Cap offre encore d'autres quartiers plus riants que les bidonvilles de Township.
Oui, alors par exemple, le quartier de l'Observatoire avec le musée du cœur et là, le souvenir de Christian Barnard, la première greffe du cœur. Voilà. Il y a aussi le quartier de Woodstock qui est plutôt branché. Le quartier de Clifton Bay, on s'y croirait en Californie avec ses villas modernes à flanc de collines et ses jolies plages. Et surtout, le quartier de Beau Cap, si pittoresque et si différent du reste du Cap.
Que veut dire Beau Cap ?
Au-dessus du Cap. Ah. Beau Cap. C'est un quartier étonnant et tranquille où il fait bon flâner. Les maisons sont basses et les façades aux couleurs vives et audacieuses fait que l'on se sent vraiment dans un quartier arc-en-ciel. C'est d'ailleurs le quartier malais car ils vivent principalement les descendants des esclaves malais amenés d'Asie.
C'est une belle ville vivante, animée, dans un cadre exceptionnel. Et en plus, tout autour la région du Western Cape, la presqu'île du Cap, encore plus grandiose.
Et que nous allons visiter dans un instant, mais d'abord allons grignoter un biltong. Un biltong, ce sont des lanières de viande marinées et séchées, de bœuf, d'autruche, ou mieux encore de koudou ou d'antilope, le parfait anka au Cap.
Et ben voilà, c'est l'heure de notre anka aussi,
voilà.
Musical.
En écoutant Malaïcha, qui évoque toute l'exubérance du carnaval du Cap.
Après cette jolie pause musicale, nous revoilà au Cape, dans la région plutôt, autour du Cap, puisque la ville, on vient de la visiter, et qui doit être aussi très variée, j'imagine.
Extrêmement variée. Des plages désertes, des montagnes sauvages, des tapis de fleurs multicolores, des vignobles généreux et même des baleines peu farouches. Partons d'abord vers le bout de l'Afrique, ce Cap de Bonne-Espérance, le plus beau cap du monde, une splendeur qui s'avance dans l'océan sur 60 km. Avec par exemple les aiguilles des 12 apôtres, c'est le site de carte postale avec ses 12 sommets qui évoquent les apôtres. Et puis sur la route, des villages charmants, de vieux ports de pêche. Et au passage, saluons à Boulder's Beach des milliers de manchots du Cap et à Hout Bay des milliers d'otaries à fourrure.
Et les célèbres babouins du Cap, n'oublions pas.
Et ils sont légions, souvent autour des parkings où ils viennent chipper les pique-niques. Les paysages sont sublimes, avec des vues fabuleuses sur l'océan en contrebas. Une petite route nous mène jusqu'à Cape Point avec son phare rouge et blanc. Le regard plonge sur l'éperon rocheux où se mêlent les deux océans. Les eaux agitées de l'océan Atlantique et les eaux plus calmes de l'océan Indien. Voici, face à l'immensité, le cap qui donna tant de frayeur par ses tempêtes et suscita tant d'espoir.
Et qui inspira tant de récits et de légendes.
Oui, comme celle, par exemple, du Hollandais volant, c'est-à-dire un vaisseau fantôme dématé aux voiles déchirées, condamné à errer jusqu'à la fin des temps au large du Cap de Bonne-Espérance. Une légende qui inspira à Richard Wagner son opéra « Le vaisseau fantôme » et également un film avec Ava Gardner, « Pandora » en 1951.
Et la saga des pirates des Caraïbes aussi, n'oublions
et
pas.
Oui.
Alors à part les vaisseaux fantômes, on peut aussi voir passer les baleines dans le coin.
Oui, on peut voir passer des baleines à Hermanus. C'est le seul endroit au monde où il y a d'ailleurs un crieur de baleines qui arpente les rues et qui souffle dans sa trompe lorsqu'une baleine apparaît dans la baie. Et encore plus moderne, la Whale Hotline, la hotline des baleines, prévient par une application qu'une baleine s'approche de la côte, parfaitement visible, donc on peut se précipiter pour la voir, et on peut même écouter son chant capté en profondeur.
Après tout, cet air marin, maintenant, si nous allions admirer le royaume floral du Cap.
Sur 70 000 km, plus de 8 600 espèces de fleurs. Partout, on trouve ces buissons fleuris uniques au monde qu'on appelle des Fynbos et les ravissantes Protéas dans la région du Cap qui sont devenues le symbole de l'Afrique du Sud. Dommage que je ne peux pas vous la, puisse pas vous la montrer en photo.
Et non, à la radio, c'est pas possible.
C'est un. Et puis alors, un des plus beaux jardins botaniques au monde se trouve précisément tout près de la ville du Cap. Il s'appelle le Kirstenbosch National Botanical Garden. Et c'est une admirable mise en valeur de la riche flore du pays.
Alors, que peut-on voir ?
Le jardin des sculptures, par exemple, le jardin des parfums, la passerelle de 130 mètres au-dessus de l'arboretum, et puis des randonnées superbes et uniques.
Alors, je crois que des fleurs d'Afrique du Sud ont été introduites dans les jardins européens dès le XVIIIe siècle.
Oui, par exemple, le Strelitzia, qu'on appelle l'oiseau de paradis aussi, l'arôme. Alors en afrikaans, l'arôme, on l'appelle oreille de cochon, si ça évoque un petit peu ça. L'agapanthe, le frisia, et puis depuis peu, la gazanie aux couleurs éclatantes, toutes ces fleurs qui parfument et embellissent les jardins du monde entier.
Et n'oublions pas le géranium.
Et le géranium, bien sûr.
Oui. Qui en Afrique du Sud forme des arbres, des véritables arbres.
Oui.
Alors, encore une autre excursion peut-être à nous proposer autour du Cap.
Ah oui, et surtout pour nous Français, il faut absolument voir la route des vins sur une centaine de kilomètres dans une campagne harmonieuse et verdoyante, de grandes propriétés viticoles, de ravissants manoirs anciens de style Cape Dutch, comme Groot Constantia, qui illustre à merveille ce style colonial avec son fronton de 1778. On planta ici des vignes dès le début, dès les années 1650. Mais le vrai démarrage des vignobles du Cap, c'est en 1688, lorsque 200 Huguenots vinrent s'installer ici.
Alors, c'est un premier arrêt à Stellenbosch, à 30 km du Cap.
Stellenbosch, c'est la plus ancienne ville d'Afrique du Sud après le Cap. Et elle fut fondée par le deuxième gouverneur du Cap qui s'appelait Simon van der Stel, d'où Stellenbosch.
Voilà.
Et c'est un décor de rêve. Tout était idéal pour y adapter des cépages, le terroir, le climat. Et cette ville historique est pleine de charme. Elle a de nombreuses maisons de style Cape Dutch, au fronton à volutes comme de fines dentelles. Et nulle part ailleurs une telle concentration de demeures comme cela et de remarquables maisons anciennes.
Un peu plus loin, nous voilà presque en France.
Oui, nous continuons la route des vins encadrée de sommets majestueux et de paysages idylliques. Et nous arrivons à Franschhoek, ce qui veut dire tout simplement le coin des Français. Alors, là, un cadre sublime, d'excellents vins et de bonnes tables. On est vraiment presque en France.
On est en France.
Oui, pourquoi le coin français ? Eh bien, c'est par allusion à ces Huguenots chassés de France qui s'y établirent en 1688. Et ce beau village tranquille est vraiment un superbe témoignage de la réussite d'une poignée de Huguenots.
Il n'y avait que 9 familles au départ.
9 familles qui se sont vues attribuer des terres ici, dans cette région du Drakensberg. Ils s'adaptèrent à cette nouvelle vie et plantèrent les pieds de vigne apportés de France. 3 siècles plus tard, c'est la richesse et l'épanouissement incroyable de la région. Et quand on voit le nom des propriétés, du Four, du Toit, du Pré, du Plessis, le Roux, la Motte, Cabrières, Mont-Rochel, oui, on est en France, sauf que personne ne parle plus français. Et que Dutoit, par exemple, maintenant se dit Dutoit, Duprey, Duplicis, etc.
Oui, enfin bon, c'est quand même des Français, n'est-ce pas ? Beaucoup de Sud-Africains portent donc un nom français.
Environ 500 000 aujourd'hui. Le musée Huguenot de Franschhoek évoque l'histoire de ces exilés protestants persécutés par Louis XIV. Un clin d'œil à la France, leur ancienne patrie si lointaine dans le temps et dans l'espace, la grande fête de Franschhoek, la grande fête de la ville, c'est le
14 du juillet.
Mais oui, comme chez nous, exactement, le 14 juillet, le jour de la prise de la Bastille, donc, et ça s'appelle à Franschhoek le Bastille Day Festival. On y organise des concours de boules avec des bérets sur la tête. Voilà, c'est encore plus français qu'en France.
Voilà, on devrait y aller la prochaine fois pour le 14 juillet. Alors, c'est sur cette étonnante célébration à l'autre bout du monde que se termine notre émission Capitale aujourd'hui, qui était consacrée à la ville de Cap, dans le sud de l'Afrique. Merci Christine de nous avoir fait découvrir cette ville et cette région si belle. Et à bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission Capitale. Au revoir.
Au revoir.